Le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. L'avocate Gisèle Halimi est morte hier à 93 ans. Nous évoquerons dans ce journal le célèbre procès de Bobigny en 1972 où elle défendait une adolescente accusée d'avoir avorté après un viol. Son engagement féministe malgré l'époque et les combats qui restent encore à mener. Nous écouterons la réaction de Marlène Schiappa, ancienne secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes.
Les foires et salons vont reprendre en septembre après des mois d'interdiction à cause de la crise sanitaire. C'est un soulagement pour le secteur, vous l'entendez.
Les cinémas ont rouvert il y a des semaines, mais les spectateurs ne sont pas nombreux, les films non plus d'ailleurs. Peu de nouveautés à l'affiche. Certains cinémas préfèrent refermer leurs portes. Une femme violée, c'est une femme cassée, une femme qui ne s'en remettra jamais. Gisèle Halimi avait mis des mots sur cette violence et dédié sa vie à faire avancer les droits des femmes. L'avocate est morte hier, à 93 ans. Elle s'était fait connaître lors d'un procès retentissant, celui de Bobigny que vous nous racontez, Antoine Marette.
En 1972, une adolescente comparaît devant le tribunal pour enfants de Bobigny. Marie-Claire est accusée d'avoir avorté après un viol un an plus tôt, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Elle est défendue par Gisèle Halimi, qui fait aussitôt de cette affaire un procès politique. Elle transforme les débats en tribune publique contre la loi de 1920 interdisant l'IVG. Et la stratégie est couronnée de succès. Marie-Claire est relaxée et sa mère est mise hors de cause en ce qui concerne la responsabilité civile. Devant le tribunal, des militantes du mouvement de libération des femmes savourent leur victoire. Gisèle Halimi vient de gagner son procès contre l'interdiction de l'avortement.
Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement.
Vous l'avez senti dans les attendus, maître ?
Je l'ai senti dans les attendus parce que Marie-Claire a déposé et a dit dans quelles conditions tout s'était passé pour elle et dans quelles conditions elle avait décidé son avortement. Les magistrats ont semblé ne pas l'avoir entendu. C'est une des motivations de leur jugement. Ce jugement est quand même un pas irréversible.
Vers un changement de la loi.
Et c'est un peu plus de 2 ans plus tard que la loi Veil est promulguée en France. Le retentissement considérable de ce procès aura contribué à la légalisation de l'avortement en France.
Ajoutons que l'adolescente Marie-Claire avait été dénoncée par l'auteur même de son viol. Elle a suivi de près le parcours de Gisèle Halimi, a partagé ses combats et ses valeurs. Anne Zelinski, féministe historique, préside la Ligue du droit international des femmes qu'elle a cofondée avec Simone de Beauvoir.
Elle a été notre avocate pour le manifeste des 343 en 1971 quand nous avons déclaré avoir avorté. Et c'est elle, en fait, qui nous a protégés contre les éventuelles poursuites pénales que représentait cet aveu, puisque l'avortement était strictement interdit. C'est une grande stature féministe, pas seulement, d'ailleurs, elle a défendu d'autres causes. C'était une femme très courageuse. La dénonciation du viol comme crime, le fait de le dénoncer comme crime, est une action collective, dont Gisèle Halimi a été la porte-parole. Il y a une chose qui me gêne beaucoup, c'est quand on se dit « Ah, mais voilà, il y a quand même 50 ans que le féminisme est réapparu, et on en est encore là. » Mais on en est très loin par rapport à ce qu'on pourrait être, parce que la question de la domination masculine a des millénaires derrière elle. On ne peut pas, en 50 petites années, l'avoir dépassée. On ne peut qu'avoir fait des pas de géant. Et là, moi, je constate en tant que féministe des années 70 qu'on a fait des pas de géant et qu'en 50 ans, on a avancé plus qu'en 300 ans parce qu'on revient de très très loin. Voilà.
Anne Zelinski, elle répondait à Sophie Delpont. Et pour aller plus loin, vous pouvez écouter sur franceculture.fr le reportage suivant « Combat de femmes » de mai 68 à MeToo. Si l'on a beaucoup avancé, tout n'est pas gagné, reconnaît Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté et ancienne secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Je retiens qu'elle a bataillé pour le droit des femmes à avorter, qu'elle a aussi mené le combat de la criminalisation du viol, en rappelant que le viol était un crime odieux et qu'il devait toujours être condamné et jugé comme tel par la justice. C'était une combattante pour les femmes, pour les droits des femmes et pour que les droits des femmes se matérialisent concrètement. C'est un combat permanent parce que je crois qu'en matière de droits des femmes, on ne peut pas stagner. Quand on ne progresse pas, c'est que l'on recule. Quand Simone de Beauvoir disait qu'il suffirait d'une crise pour battre en brèche les droits des femmes qui ne sont jamais acquis. Elle avait raison, et je sais que Gisèle Halimi la citait parfois justement sur ces questions, et on le voit récemment après la pandémie de Covid-19, à quel point ça a eu un impact fort sur les droits des femmes. Et avec Gisèle Halimi, c'est une grande voix et une grande figure, et quelqu'un qui faisait office aussi d'aiguillon pour les droits des femmes, une grande voix comme il en reste peu. Finalement, aujourd'hui, il y a bien sûr Elisabeth Badinter chez les philosophes, mais chez les combattantes féministes, Gisèle Halimi va beaucoup nous manquer.
Marlène Schiappa, des propos recueillis par Rosalie Lafarge. Une importante audition est attendue aujourd'hui au Congrès américain. Les quatre géants de la tech, Google, Apple, Facebook et Amazon, seront entendus sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles. Jeff Bezos pour Amazon dit accepter d'être examiné par les élus tout en rappelant le succès de son entreprise. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, devra aussi défendre sa plateforme. Près de 1600 personnes sont mortes du coronavirus aux États-Unis en 24 heures. Nouveau record atteint hier pour la première fois en 2 mois et demi. À Hong Kong, à partir de maintenant, le port du masque est obligatoire en public. Les rassemblements de plus de 2 personnes sont interdits. Les autorités s'inquiètent là aussi des signes de reprise de l'épidémie. Le virus circule aussi activement en France, mais le gouvernement essaie malgré tout de rétablir certaines activités. À partir du 1er septembre, les foires et salons professionnels pourront à nouveau se tenir et donc accueillir du public. Ils étaient interdits depuis la fin février. Le salon de l'agriculture avait même dû fermer ses porte plus tôt que prévu. Le secteur a perdu 15 milliards d'euros en 6 mois. Pour cette reprise, pas de jauge maximale imposée, mais avec toujours en tête le respect des gestes barrières. Vipari est le leader européen de l'accueil de congrès et de salons. Son directeur général, Pablo Naclé-Cerruti, est soulagé.
Un événement, que ce soit un salon, que ce soit un congrès, sont des lieux de rencontre et ce sont des lieux dans lesquels on fait des affaires. Est-ce que le gouvernement a compris ? C'est que ces événements, ces salons, ces congrès, ces événements d'entreprise sont des moyens également pour faire redémarrer l'économie. Évidemment, cette industrie va changer dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir pour aller vers ce qu'on dit dans notre métier de l'hybridation, c'est-à-dire un mariage entre la rencontre physique et puis l'animation digitale. Alors, rien ne vaut la rencontre physique pour faire des affaires, pour se constituer un réseau, pour se former, pour se rencontrer, pour s'inspirer, et c'est toute la vocation des événements. Et vous savez, si on regarde ne serait-ce que le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, les touristes de loisirs vont mettre du temps à revenir, parce que dans le fond, à Paris, la Tour Eiffel, elle sera là en 2020, mais elle sera là en 2021, en 2022, en 2023, et on peut reporter un voyage. En revanche, pour remplir son carnet d'adresses, pour valider ses crédits de formation, pour rencontrer ses pairs au sein de la même entreprise, eh bien, ça n'attend pas, et c'est la raison pour laquelle j'ai la conviction que le voyage d'affaires peut permettre à la destination Paris de redémarrer également.
Paris, qui est la ville qui a accueilli le plus de congrès dans le monde l'an dernier, avec 272 événements organisés. Pendant le confinement, pour faire passer le temps, les Français ont été nombreux à se tourner vers la vidéo à la demande, car les tournages ont été suspendus, les sorties de films reportées et les cinémas fermés. Depuis, toute l'industrie est en difficulté. Les cinémas ont perdu 400 millions d'euros et malgré leur réouverture, ils n'attirent pas grand monde, à tel point que certains ferment à nouveau cet été. C'est le cas du Grand Rex, Camille Kaufmann.
La fermeture temporaire des cinémas n'a rien d'inédit, mais même aujourd'hui, ce phénomène reste marginal. Seule une vingtaine de cinémas ont rouvert en juin, puis refermé. Non, le problème pour Patrick Patry, président de la Fédération des cinémas français, c'est le manque de films à projeter, car c'est tout un écosystème qui s'effondre.
Quand nous avons ouvert le 22 juin, on avait des perspectives. Il y avait des films américains qui revenaient à partir du 15 juillet. Il y avait Nolan, il y avait Mulan, il y avait Wonder Woman au mois d'août. Un mois plus tard, il y a 4,5 millions de spectateurs qui sont venus. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Sauf que c'est un tiers de ce qu'on fait habituellement sur la même période. Il y a énormément de films qui sont déprogrammés sur 2021, voire même des films qui partent sur les plateformes. Donc c'est pour ça que si vous, la situation devient un peu désespérante. On est dans la période la plus forte de dépendance aux films américains. Juillet-août, 70% des entrées sont faites sur les films américains. Quand je vais voir un film, je m'acquitte d'une taxe qui remonte dans la corbeille générale et cette taxe permet de faire des nouveaux films en France, des premiers films, de soutenir la création française. Quand je vais voir un film américain, je permets à un film français de se faire.
À défaut de films américains cette année, Patrick Patry tire la sonnette d'alarme. Il demande une prolongation de l'exonération des charges sociales, du chômage partiel, des mesures sur les loyers des cinémas, mais surtout une aide du gouvernement pour le Centre National du Cinéma, le CNC, qui permet de soutenir la réalisation de films français.
La police est en train ce matin d'évacuer le campement de migrants d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Plus de 1500 personnes s'y étaient progressivement installées ces dernières semaines. Le soleil brillera partout en France aujourd'hui, sauf dans les Alpes où on attend des orages. Comptez au maximum 24 degrés à Amiens, 28 à Strasbourg, 32 à Marseille, 30 degrés à Bordeaux.